C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Ah, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. C'est l'heure du Canu Info.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce Canu Info. Désolé du retard. Nous sommes le mercredi 26 février 2020. Il est 19h passé de 4 minutes. Et nous allons parler ce soir
du Black Macron Day.
Et nous allons parler de nouvelles possibilités de fichage pour la police contre nous.
Ensuite, on parlera, on aura la rubrique « Il faut que ça sache », où on parlera « Sauvetage et Méditerranée » et « Émeute en centre de rétention maltais ».
Et ensuite, nous parlerons du Chili avec le mouvement social qui reprend par rapport à un festival de musique perturbée, mais également par rapport à des propositions de changement de la constitution chilienne. Vous en saurez plus tout à l'heure. Et nous finirons ce Canu Info par des affrontements entre la police et l'armée en Haïti.
Radio Canu. Canu Info.
Du mercredi. Parce que nous sommes en plein mouvement social et puis parce que ça nous fait bien plaisir quand Emmanuel Macron est directement attaqué. Ça s'est passé lundi dans la station de ski de la Mongie au Grand Tourmalet, c'est dans les Pyrénées. Les salariés ont viré de la remontée mécanique le beau siège bleu, blanc, rouge et tricolore donc de Emmanuel Macron. Bravo. Donc ces personnes, ces salariés sont mobilisés face à la réforme du chômage et du coup c'était pas seulement les salariés du Grand Tourmalet mais c'était aussi plein de d'autres salariés d'autres stations pyrénéennes qui ont donc procédé à ce démontage. Et il y a eu donc effectivement l'échec des négociations avec le ministère du Travail sur la réforme du chômage. Et du coup, ils en ont profité pour squatter la piste de ski et ensuite donc de descendre ce joli siège cuir tricolore à la préfecture de police. Oui, voilà. Allez, on va arrêter des secondes, même si vous pourrez encore l'écouter un petit peu en boucle. Mais non, on va continuer ce Canu Info. Et donc, on va parler de fichage policier. Donc, j'ai trouvé cette information sur le site de la Quadrature du Net. Donc, pour rappel, c'est une asso qui défend les libertés fondamentales dans l'environnement numérique. C'est une asso qui sort, dont on parle régulièrement et qui sort des infos quand même méga importantes pour comprendre nos droits. Bon, là, pour le coup, c'est pas sur nos droits, c'est sur les possibilités de la police qui augmentent considérablement. Puisque samedi 22 février, là ce samedi, la gendarmerie a déployé une application mobile qui facilite la collecte de photos et d'informations sensibles. Donc sur la religion, la politique, les sexualités, la sexualité et les prétendues origines raciales. Et leur transmet dans des fichiers extérieurs, donc tels que le TAJ, qui permet la reconnaissance faciale, ou les fiches des services de renseignement qui ont une activité de surveillance politique. Donc cette application, elle s'appelle GenNote et elle existait déjà et elle est utilisée depuis plusieurs années sans cadre juridique. Et en fait, ce qu'elle fait cette application, c'est qu'elle remplace la prise de notes sur papier. Vous voyez, les flics, ils étaient sur le terrain, ils prenaient des notes et puis après ils devaient les copier sur un ordinateur une fois rentrés à la gendarmerie. Par une prise de notes, voilà. Et maintenant, la prise de notes est directement informatique sur le terrain. Donc, c'est ce que permet cette application GenNote sur, j'imagine, les smartphones et autres tablettes que les flics ont dans leur voiture. Donc, parce que là, du coup, il est encadré maintenant par la loi, précise désormais qu'avec GenNote, les gendarmes peuvent prendre en photo n'importe quelle personne qu'ils suspectent d'avoir commis une infraction. Ils peuvent aussi enregistrer les informations, donc ce que j'ai dit au début, sur leur religion, politique, sexualité et prétendue origine raciale, à la simple condition que de telles informations soient absolument nécessaires aux fichiers de police judiciaire. Donc, pour lutter contre les crimes, délits et certaines contraventions, telles que le trouble à la sécurité ou l'atteinte à l'autorité de l'État, ou de police administrative, les fiches de services de renseignement notamment. Et donc c'est cette absolue nécessité n'est en pratique jamais vérifiée. Donc par rapport à ce que je viens de dire, on voit à quel point tout est possible d'être mis dans cette application de GenNote, puisque le champ de requièrement pour l'utiliser est tellement vaste qu'en gros la police a un champ devant elle très très large. Et du coup une explication de la CNIL. Vous savez, la CNIL, c'est ce fameux comité censé protéger nos libertés, mais bon, ça c'est toujours à voir depuis les années. Et du coup, donc ces photos et informations sont transmises au LRPGN, le logiciel de rédaction des PV de la gendarmerie, qui ensuite les transmet à son tour au TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, si les gendarmes décident d'ouvrir une procédure. Dans ce cas, les informations seront conservées dans le TAJ seulement 20 ans et accessibles par toute la police et la gendarmerie.
Pas de quoi s'affoler.
Voilà, et les photos pourront être utilisées ultérieurement par un système de reconnaissance faciale, bien évidemment, pour identifier des personnes.
Super.
Si l'application GenNote n'intègre pas de logiciel de reconnaissance faciale, elle facilite le transfert des photos vers le TAJ qui lui l'organise. Ça c'est super. Donc la CNIL l'explique mais ne l'a pas réfuté. Hein. Donc le décret a été signé. Ça montre que ça semble valide apparemment pour la CNIL, ce genre de pratique policière. Donc par exemple, on va donner des exemples parce que c'est ça qui nous aide à comprendre les trucs fumeux des fichiers. Donc lors d'une manifestation, d'un contrôle routier, les gendarmes pourront, lors d'une fouille, d'un contrôle d'identité ou une interaction avec une personne qu'ils jugent suspecte, inscrire donc une identité et avec accolée à d'une photo avec si besoin des informations au sein de cette application. Et si les gendarmes décident ensuite d'ouvrir une procédure, hop, c'est doublé sur le TAJ. Et ben, ce décret semble quand même, pour la quadrature du net, semblerait illégal en ce qu'il échoue à définir sa finalité ou en quoi il serait absolument nécessaire au travail des gendarmes. C'est ce qui est décrit dans le décret et pourquoi il a été appliqué, voté et appliqué, c'est qu'il est d'une absolue nécessité. Sauf que... on peut leur rétorquer que qu'il faut des motifs plus sérieux pour en appeler à l'absolue nécessité. Et du coup, les conséquences sont considérablement aggravées là sur ce décret par l'autonomisation de ces enregistrements et les échanges d'informations. Jusqu'alors, dans la police, le risque de surveillance politique était mécaniquement limité par la dépendance au papier. Le fait de devoir recopier, le fait que ça soit différents fichiers, etc. Et donc cette limite matérielle a disparu avec ce décret. Les fichiers se multiplient et on automatise les facilités d'échange entre ces différents fichiers en démultipliant à chaque fois les possibilités d'abus. Donc encore une fois, ce ne sont pas les décrets qui encadrent les pratiques policières, mais bien les pratiques de la police qui font loi.
Venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expliquer.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a décidé de limiter par terre. Dès que les lois mises en place. Dès que les lois mises en place.
Alors, c'est pas souvent quand même que ça fait les gros titres, ces histoires de sauvetage en mer. Bon bah, je vous rassure, ça le fait pas non plus. Mais on a un lien avec la grosse actualité du moment, l'espèce d'énorme truc qui fait la une de tous les journaux. Il s'agit donc du coronavirus. Alors. Ou alors comment on va réussir à se servir de ce truc et du flip de la pandémie pour bloquer les bateaux de sauvetage. Et ben c'est ce qui arrive en ce moment à l'Océan Viking, le bateau de SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières, qui a donc pu débarquer après quelques jours d'attente les 274 personnes qui elles avaient secouru en mer. Mais par contre, les personnes secourues se sont vues placées en quarantaine à Pozzallo en Sicile, et du côté de l'équipage du bateau, il a lui été confiné à bord et ne peut pas reprendre la route. Bon, on peut se demander à juste titre si cette mesure de confinement du bateau ne serait pas une manière, comment dire, déguisée de maintenir à quai un bateau qui pourrait aller secourir d'autres migrants en mer, par exemple. Question qui se pose d'autant plus que SOS Méditerranée accueille en son sein Médecins Sans Frontières, qui sont quand même pourtant bien branchés virus et contamination et compagnie. Et que eux-mêmes ont dit, bon là quand même sérieusement les gars, vous déconnez. Alors, à part faire grandir l'anxiété de la population sur de possibles risques sanitaires à accueillir des personnes secourues en mer et à se servir du moindre prétexte pour empêcher tout sauvetage en mer, on voit pas bien à quoi le gouvernement italien joue. Enfin, je dis ça, on voit quand même plutôt très bien à quoi il joue. Dans tous les cas, une fois de plus, ce gouvernement nous montre qu'avec ou sans l'épouvantail Salvini, sa politique ne diffère pas beaucoup. On est juste épargné de quelques petites phrases sur Twitter. Bon, du côté du Sea-Watch 3, où on aime bien donner des nouvelles quand même, après une semaine d'attente, le Sea-Watch 3 a reçu l'autorisation d'accoster à Messine, en Sicile. 194 personnes se trouvent à son bord, se trouvent encore à son bord. Au même moment où le navire met le cap sur Messine, c'était mardi soir, la plateforme téléphonique AlarmPhone reçoit des appels de détresse de deux embarcations en péril au large de la côte libyenne. Le Sea-Watch étant en impossibilité d'aller les secourir, il exhorte les autorités maltaises et italiennes à procéder au sauvetage. Donc il les exhorte de manière un peu par les canaux officiels, c'est-à-dire qui déclenche des balises de secours, et également sur Twitter pour leur mettre un peu la pression, où il dit en fait là faut que vous y allez, c'est juste une question de vie ou de mort pour ces embarcations. Quand les bateaux comme Sea-Watch ou l'Ocean Viking, c'est toujours bien de le rappeler, font appel aux autorités italiennes ou maltaises pour aller secourir des bateaux en détresse, il faut quand même bien comprendre que c'est en général que ces ONG sont en totale incapacité de pouvoir envisager même le sauvetage de ces personnes, car ils savent très bien ce qu'il va se passer après, et c'est ce qui s'est d'ailleurs passé là. Les personnes, une fois secourues, sont ramenées en Libye. Ce que toutes les ONG dénoncent comme n'étant pas un port sûr. Enfin, en gros, voilà, une fois que les migrants et migrantes sont ramenés là-bas, ils retournent un peu dans ce qu'on appelle l'enfer libyen, c'est-à-dire dans des centres de rétention dont on parlera un peu plus tard. Concernant le sort qui sera réservé au Sea-Watch 3 une fois débarqué à Messine, il y a donc de fortes chances pour que celui-ci soit mis en quarantaine avec l'équipage contraint d'être confiné à bord, tout comme l'Ocean Viking. En tout cas, on voit mal comment le gouvernement italien ne se servira pas de ce nouveau prétexte pour réussir une nouvelle fois à réduire le nombre à zéro de bateaux de sauvetage en Méditerranée. Parce que jusqu'à présent, comme l'Ocean Viking est bloqué au port, il restait plus que le Sea-Watch 3. Si le Sea-Watch 3 subit le même sort, il n'y aura donc plus aucun bateau en Méditerranée.
Ça sache.
Ensuite, on reste dans la même région, et cette fois-ci c'est du côté de Malte où on va. Où 19 migrants ont été condamnés de 9 mois à un enfer pour avoir participé à une émeute en octobre dernier dans le centre de rétention d'Al-Safi, situé dans le sud de l'île. Tous avaient des casiers judiciaires vides. Ça vaut quand même le coup de le préciser. C'est en général, vous voyez, c'est comme ça que fonctionne la justice. En général, on condamne moyennement à du ferme quand c'est le premier délit pour lequel on s'est fait pincer. Peu importe, les centres de rétention de l'île font souvent l'objet de révoltes, que ce soit pour dénoncer leurs conditions de détention ou pour dénoncer leur détention tout court. Selon un récent décompte de l'ONU, quelques 1400 migrants sont retenus dans les deux centres maltais d'Al-Safi et de Marsa, sans aucune justification. Il s'agit majoritairement de demandeurs d'asile secourus en Méditerranée par la marine maltaise ou par les navires humanitaires au large de la Libye. La justice justifie ce placement en détention par des contrôles sanitaires qui ne doivent pas dépasser 2 semaines. Dans les faits, la rétention sanitaire dure parfois plusieurs mois, jusqu'à 3 mois, dans les centres de rétention où les migrants sont privés de liberté, de téléphone, de leurs effets personnels et de leur argent en liquide. En janvier dernier, une émeute avait également éclaté et 22 migrants avaient été condamnés.
Ça sache.
Et on va faire un tour du côté de la Libye, et où le centre de Sahra Zawiya, dans le sud de Tripoli, pose des questions à de nombreux observateurs qui scrutent les migrations. Selon l'OIM, qui est l'Organisation internationale des migrations, qui est rattachée à l'ONU, ce lieu est censé être un centre de transit où les migrants interceptés en mer ne peuvent pas passer plus de 2 jours. Là, c'est un peu comme on en parlait un peu avant à Malte, mais cette fois-ci c'est bien sûr pire parce qu'il s'agit de la Libye. Des migrants ont témoigné avoir été enfermés plusieurs mois sans que l'on leur pose la moindre question. En gros, là, l'idée officielle de ce centre, où on comprend pas trop si c'est un centre clandestin, un truc, enfin bref, voilà. C'est qu'on leur pose des questions sur comment a été organisé leur voyage, de se renseigner, d'avoir des noms de gens gens qui organisent les trajets de la Libye vers l'Europe. Enfin, bref, ça c'est le vernis officiel. Sauf qu'en vrai, pas du tout. Il s'agit d'un centre de rétention clandestin, on pourrait dire. Voilà, plusieurs témoignages parlent de passage à tabac sans aucune raison, des rationnements de nourriture qui sont de l'ordre du un bout de pain le matin pour 6 personnes et un plat de pâtes pour 6 personnes le soir. Et ça pendant, voilà, les personnes sont enfermées pendant 3 mois. Vous imaginez un peu l'ambiance. Alors bon, ce qui pose question, c'est ce que se demande l'OIM, c'est si ce truc ne serait pas dû à un changement de responsabilité au sein même du centre de rétention. Et là, du coup, l'OIM déclare, les Libyens qui contrôlaient le centre nous ont dit, c'est un témoignage d'un migrant, pardon, nous ont dit de partir car un nouveau chef devait arriver. L'ancien et le nouveau responsable n'étaient d'ailleurs pas d'accord entre eux, à tel point que leurs équipes ont tiré les uns entre sur les autres pendant que nous prenions la fuite. Parce que quand même, un des avantages, et c'est certainement le seul, c'est que ces centres de détention libyennes sont quand même souvent des passoires. Enfin, en tout cas, j'imagine que c'est pas hyper simple de se barrer, mais c'est quand même pas impossible non plus, rien à voir avec d'autres centres de rétention, mais c'est quand même vraiment le seul, parce qu'en même temps, ce qui s'y passe à l'intérieur est vraiment atroce. L'OIM signale de son côté n'avoir reçu l'autorisation d'entrer dans ce centre que depuis la semaine dernière. Je les cite, avant, le lieu était géré par le ministère de l'Intérieur, mais depuis quelques jours, c'est la DCIM. La DCIM, c'est le département de lutte contre l'immigration illégale, qui a repris le contrôle. Vous voyez, mais vous imaginez un peu la zone, on parle de reprise de contrôle, hein, c'est pas de changement de chapelle ou quoi. Bon, pour préciser quand même que ce centre de rétention n'est pas du tout une exception en Libye, qu'il existe d'autres centres de ce type en Libye, que de toute façon les centres de détention en Libye c'est juste un enfer sur terre, où on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. À des moments, il y a des ONG qui ont le droit d'y mettre les pieds. On imagine que c'est un peu le moment où c'est le plus favorable pour le gouvernement libyen. Même dans ce cas-là, en général, c'est quand même un peu la cata. Voilà. Et dans tous les cas, dans tous les centres de détention en Libye, c'est la même chose. Les migrants y sont détenus de manière arbitraire pour une période indéfinie et dans des conditions déplorables.
Il faut que ça se sache.
Et maintenant, on parle du Chili où le mouvement social a repris là en cette fin février et va reprendre plus largement en mars. Mais pourquoi je dis qu'il a repris fin février, c'est par rapport au festival de Viña del Mar qui a été pris à partie par plein de manifestants anti-gouvernementaux. Donc Viña del Mar, c'est une cité balnéaire qui organise chaque année le plus grand festival de musique d'Amérique latine. C'est pas n'importe quel festival. Et du coup, il a été choisi volontairement par des manifestants, donc pour aller y protester. Donc il y a eu des affrontements qui ont eu lieu à l'ouverture, c'était ce dimanche 23 février, obligeant l'organisation à reporter plusieurs concerts et rendez-vous. Il y a un hôtel qui a été pris pour cible, ainsi que de nombreux locaux commerciaux, par la manifestation. Il y a eu donc pendant la manif des affrontements à coups de barre de fer, de cocktails Molotov et de pierres. Et il y a eu quand même des milliers de manifestants, donc énormément de gens qui ont défilé en scandant « Pas de festival sans justice ». Pas de festival sans justice. Et donc malheureusement les autorités sont intervenues avec d'importants moyens, et ce qui a occasionné de nombreux blessés. Ça on peut toujours s'en réjouir, 20 parmi les forces de l'ordre quand même, bien joué. Et au Chili aussi, y a une proposition de changement de la constitution par référendum. Et notamment pour que l'eau ne soit plus privatisée, mais qu'elle redevienne un bien d'usage, puisque l'eau c'est un des seuls pays au monde où elle est privatisée. Bref, on a une envoyée spéciale en voyage au Chili actuellement, qui a traduit tout spécialement un article qui explique cette situation et qui explique les enjeux des militants locaux, qui nous a fait ça pour le Canu Info. Merci beaucoup. Donc, tout de suite, écoutez ça.
Au Chili, l'eau est privatisée, c'est-à-dire que quelques personnes sont propriétaires de droits d'eau. Dans certains secteurs, l'usurpation de cette ressource a généré une pénurie qui maintient des territoires en crise. C'est le cas de la province de Petorca, près de Valparaíso, qui produit en masse des avocats pour l'exportation et dont les habitants dépendent maintenant de camions-citernes pour accéder à l'eau. Dans l'Union européenne, la consommation d'avocats, fruits à la mode et présentés comme super-aliments, augmente chaque année. Plus de 700 000 tonnes en 2019. La surexploitation de la terre de la part de cette agro-industrie a laissé l'écosystème et les communautés de Petorca, région de Valparaíso, totalement secs. La lutte pour l'eau, comme celle pour la protection et la jouissance des territoires par les peuples originaires, est fortement criminalisée. En effet, elle s'attaque directement à la gestion coloniale et néolibérale du gouvernement chilien et aux multinationales qui pillent les territoires, comme Benetton, Levis ou Nestlé, entre autres grands dégueux. L'accès à l'eau pour la population et l'arrêt de l'extractivisme, du saccage et du dessèchement des territoires fait partie des nombreuses demandes du mouvement social actuel au Chili. En mars, à la rentrée, les mobilisations vont reprendre de plus belle. En avril, un référendum est prévu pour changer la constitution actuelle, qui date de la dictature militaire de Pinochet. Voici une pétition qui circule sur salvalaselva.org. Il est urgent d'abroger le code de l'eau, de réduire la culture d'avocatier et de permettre l'accès à l'eau potable et à l'irrigation pour les communautés de Petorca, Chili. Les communautés Calle Larga, Chalaco, Chincolo, Pedegua, Hierro Viejo, El Frances, Pedernal, Las Palmas, Quebrada de Castro, entre autres, toutes appartenant à la commune de Petorca, n'ont pas un accès digne à l'eau pour la consommation humaine et l'irrigation des cultures. Au lieu de cela, c'est l'agro-industrie de l'avocat pour l'exportation qui s'accapare toute l'eau à laquelle la population n'a pas accès. C'est la même politique extractiviste que pour les industries minières, forestales, de la pêche ou énergétiques entre autres, qui déplacent les communautés et détruisent la nature. Il est urgent que vous reconnaissiez l'importance des cycles de l'eau dans la nature et pour les écosystèmes, ainsi que d'autres manières de gérer l'eau. Pour ce faire, vous devez en premier lieu abroger le code de l'eau instauré en pleine dictature militaire en 1981. C'est une des mesures fondamentales pour déprivatiser l'eau au Chili. En effet, il donne des droits excessifs sur l'eau aux entreprises et génère un marché autour de ce bien commun fondamental. Dans ce sens, nous pensons qu'il est essentiel de considérer la nature comme un sujet politique qui a des droits qui doivent être respectés. C'est une fonction essentielle de l'administration publique que de considérer l'eau comme un bien national d'usage public. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place une gestion communautaire de l'eau où les territoires eux-mêmes sont les souverains de ce bien commun. L'eau doit être garantie au Chili comme un droit humain et comme un droit de la nature par une nouvelle constitution et une nouvelle législation qui protège les personnes, les communautés, la terre et sa biodiversité. C'est ce que défendent le Mouvement pour l'eau et les territoires, MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios, et l'École d'agroécologie régionale commune de Petorca. Pour que ces objectifs se matérialisent sur le territoire, il faut immédiatement mettre fin à l'extractivisme caractéristique de l'agro-industrie d'avocats et de citrons dans la commune de Petorca. Alors, pour contextualiser un peu, la province de Petorca, qui est située dans la région de Valparaíso, au nord de Santiago de Chile, concentre 8000 hectares de fruitiers pour l'exportation. Ce sont en majorité des avocats. Dans la région, il pleut à peine, mais avant, les versants étaient pleins d'eau et de vie. S'il n'y avait pas d'eau, il n'y aurait pas d'agro-industrie à Petorca. Chaque avocatier en production nécessite 3 arrosages, ou 600 litres d'eau par semaine, qui sont extraits du sous-sol par des puits profonds. Le vol et la mauvaise gestion de l'eau condamnent la région à la méga sécheresse depuis 10 ans. Les nappes souterraines se sèchent et les marais sont complètement secs. Les fleuves Petorca et la Lewa, bassins hydrographiques de la région, sont en restriction depuis 1994 et 2004 respectivement. Selon la Direction Générale de l'Eau, DGA, leurs eaux ont baissé de 80%. L'injustice saute à la gueule. Alors que les communautés sont sèches et désertes, les monocultures sont bien vertes et les piscines des entreprises agricoles toujours pleines. Le gouvernement apporte 50 litres d'eau par personne et par jour en camion-citerne. C'est insuffisant pour une vie digne, couvrir les besoins basiques et l'agriculture familiale. Dans ce contexte, des organisations nationales, comme le Mouvement pour l'eau et les territoires, MAT, et locales, comme l'École d'agroécologie Helminal, commune de Petorca, travaillent pour récupérer l'eau pour les communautés et la nature. Leurs alternatives à la politique agro-exportatrice du Chili incluent la promotion de plus de 50 cabildos pour l'eau. Donc les cabildos, c'est des conseils avec des représentantes de chaque communauté. Donc leurs alternatives à la politique agro-exportatrice du Chili incluent la promotion de plus de 50 cabildos pour l'eau dans les communautés rurales au cours desquelles ils analysent la crise hydrique et proposent des solutions comme la souveraineté alimentaire ou l'agroécologie. Alors, les révoltes populaires qui ont explosé le 18 octobre 2019 au Chili ont fait le tour du monde. Ce qui a commencé par un rejet du peuple de la hausse du prix du ticket de métro était en fait un soulèvement contre les abus successifs et les injustices sociales dont le peuple a souffert ces 30 dernières années. Les revendications concernent aussi le milieu rural et paysan qui dénoncent le pillage des biens communs naturels et culturels par les classes dominantes chiliennes et les multinationales, systématiquement couvertes par le gouvernement. Le Chili, présenté en Amérique latine et dans le monde comme un modèle d'économie fructueuse et exemplaire, cache en réalité des niveaux élevés d'injustice, d'inégalité et de mécontentement qui ont fait exploser la révolte sociale sans marche arrière possible. La politique agro-exportatrice s'est installée dans la région de Petorca depuis les années 90 par quelques familles liées à différents partis politiques qui accumulent des richesses matérielles et du pouvoir politique grâce à des lois qui perdurent depuis la dictature militaire, comme le Code des eaux de 1981. Celui-ci sépare la propriété de l'eau et de la terre, favorisant l'accumulation des droits d'eau qui pour beaucoup s'accordent gratuitement et à perpétuité à ces mêmes personnes qui maintiennent cet injuste système. Il existe beaucoup de puits et peu de contrôle. En 2019, au moins 21 dossiers pour vol d'eau ont été ouverts. La majorité sont attribués à des grandes et moyennes entreprises productrices d'avocats dans la région de Petorca. Mais grâce à la bureaucratie institutionnelle et au système légal actuel, voler de l'eau au Chili est une simple faute administrative qui est juste punie par une petite amende comparée aux revenus des entreprises. Le cas de Petorca n'est pas nouveau et les multiples dénonciations n'ont apporté aucune solution effective jusqu'à aujourd'hui. L'extraction de l'eau par des puits profonds diminue le niveau d'eau des puits plus petits des paysans qui voient leurs cultures et animaux mourir. Maria Inés Espinosa, du comité d'eau potable rurale Quebrada de Castro à Petorca, explique que les communautés locales sont sans eau depuis 10 ans. Il y a à peine assez pour survivre. Les gens ne peuvent même pas utiliser les toilettes par manque d'eau. Si le camion-citerne ne vient pas, il n'y a pas d'eau. Camila Zarate, porte-parole du Mouvement pour l'eau et les territoires, MAT, critique le projet de réforme constitutionnelle qui cherche à consacrer l'eau comme un bien public, projet qui a été rejeté par le Sénat chilien en janvier. La porte-parole du MAT signale que l'initiative possède une vision anthropocentrique, coloniale et extractiviste, raison pour laquelle ils exigent l'établissement d'une nouvelle constitution à travers une assemblée constituante plurinationale, impliquant les différentes nations vivant sur le territoire chilien, et féministe, avec la participation de personnes indépendantes et qui remettent en question n'importe quel type de réforme qui pourrait perpétuer la marchandisation de l'eau. Sarata se réfère au conflit d'intérêts entre le Congrès national et le gouvernement qui ont empêché de garantir l'eau comme un bien commun. À propos du projet de réforme constitutionnelle qui prétend consacrer les eaux du pays comme un bien d'usage public, Camila Sarata dit « Avec le MAT, on a été catégorique sur l'importance que l'eau soit garantie comme un droit humain et comme un droit de la nature dans la Constitution. Pour nous, la manière selon laquelle elle change n'est pas un détail. » On pense qu'il faut que ce soit absolument à travers une assemblée constituante plurinationale, c'est-à-dire qui prend en compte tous les peuples qui habitent le territoire, féministe et pas seulement paritaire, et en plus avec la participation de personnes indépendantes et des territoires. C'est pour ça que nous ne soutenons pas une convention constituante qui ne permet pas une assemblée souveraine qui s'autorégule et qui envisage la possibilité que ce soit le pouvoir législatif actuel qui dicte les règles pour créer la nouvelle constitution. Ça ne nous paraît pas non plus adéquat de réformer cette constitution illégitime, créée en pleine dictature militaire et approuvée lors d'un plébiscite totalement irrégulier où les personnes ont dû voter avec une mitraillette sur la tête. Par rapport au contenu du projet, on pense qu'il était temps que les parlementaires se rendent compte que pour changer la constitution, il faut faire un changement de fond qui assure l'eau comme un droit humain et de la terre-mère. Pour cela, l'article 19, numéro 24, qui reconnaît l'eau comme une propriété privée, ne peut pas perdurer. Cette aberration a lieu seulement au Chili. C'est l'unique pays avec toutes les sources d'eau totalement privatisées. Dans le projet, il est juste que l'eau soit déclarée comme un droit, qu'il y ait la possibilité de présenter des moyens de protection quand ce droit est atteint, et que l'article 19, numéro 24, soit abrogé entre autres. Cependant, le projet est inabouti parce qu'il ne prend pas en compte l'eau comme droit de la nature, l'eau comme sujet politique, l'établissement des usages prioritaires de l'eau. On est aussi critique du concept de bien national d'usage public qui obéit à deux logiques. La première ne reconnaît pas l'eau comme un sujet politique, chosifie la nature, l'eau est appropriable et génère certains bénéfices pour les humains, ce qui constitue une vision totalement anthropocentrique, coloniale et extractiviste. La deuxième va plus loin de l'aspect éthique et est relationnée à l'idée que les biens nationaux d'usage public puissent être gérés par des privés à travers d'une concession. Nous avons posé le fait que ce seront nous, les communautés et les usagers et usagères de l'eau, qui pourront décider de l'usage des bassins. Jusqu'à aujourd'hui, les uniques personnes qui ont participé au débat sur ce sujet ont été les propriétaires de droits d'eau. Pour le MAT, l'eau doit être reconnue comme un bien commun que ne peuvent pas s'approprier des privés. Il faut se tourner vers le territoire, le communautaire. Depuis cette perspective, on considère que les contenus du projet de loi sont insuffisants.
Merci beaucoup à notre envoyé spécial et on espère qu'on va pouvoir suivre aussi en mars les différents mouvements, l'augmentation du mouvement social, voilà. Et là, on va finir ce Canu Info en parlant de Haïti, où il y a une effervescence dans le pays, comme dans plein d'autres endroits du monde. Mais en tout cas, il y avait lundi 17 février les flics qui étaient dans la rue pour réclamer de meilleures conditions de travail. C'était la semaine dernière. Et en fait, tout s'est un peu emballé, enflammé dimanche. Il y a eu des milliers des militaires qui se sont affrontés à des policiers. Ça a fait deux morts et une dizaine de personnes blessées. Donc il y a des soldats et des policiers qui sont blessés dans cette histoire. Et en fait, c'est quand les policiers ont voulu détruire un stand construit à l'intérieur même du grand quartier général des forces armées d'Haïti, à quelques mètres du palais national à Port-au-Prince, que les affrontements donc ont débuté et que ils sont pas calmés quoi. C'est vraiment parti bien en vrille. Et donc les autorités face à ces débordements ont annulé le carnaval de Port-au-Prince. Et lundi, il y avait encore il y a tous les axes principaux, les axes routiers principaux étaient bloqués et les activités commerciales paralysées à Port-au-Prince. Et aussi pas seulement à Port-au-Prince mais dans les villes autour. Et donc les policiers continuaient à manifester et arrivaient à prendre la population à partie et augmenter leur cortège au moment de leur passage. Affaire à suivre dans les prochains jours, prochaines semaines, de ce qui se passe en Haïti.
Et c'est 19h41 et ce Canu Info touche à sa fin.
Voilà, on se retrouve la semaine prochaine.
En attendant, merci de nous avoir écoutés et vous retrouverez peut-être Idée Noire, peut-être pas, on les a pas vus derrière la vitre, mais
voilà. Il est encore tôt.
Mais c'est ça. Allez, à la semaine prochaine.
Radio Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.